Il y a 2 jours, vendredi donc, vous avez entendu le récit de la passion de Jésus, son arrestation, la lâcheté des disciples qui se sont enfuis à ce moment-là, le procès inique, sa condamnation à mort, sa crucifixion, son abandon. Et pourtant, quelques personnes n'ont pas fui. Ces personnes, Christophe vient de nous en parler. Elles ne faisaient pas partie des apôtres du fameux groupe des 12. Non, elles ne faisaient partie d'aucun groupe. C'était juste quelques femmes. Elles sont restées là, non loin de la croix. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Oui, quelques femmes sont restées là, dévastées par le chagrin et la douleur face à l'agonie et la mort de leur maître, de leur bien-aimé. Alors ce matin, nous allons suivre ces femmes grâce à la lecture du 16e chapitre de l'Évangile selon Marc. Et ce sont des lectrices qui vont nous accompagner ce matin. Alors pour les 2 premiers versets, je crois que c'est Elsa qui vient.
Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau.
Lorsqu'un être aimé a été arraché à la vie et que la mort est là, lourde, pesante, prenant toute la place, il ne reste plus rien, sinon à s'accrocher à des petites choses, aux aromates, à la tradition, au quotidien de la vie. Pour ces femmes, amies de Jésus, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Dire encore une dernière fois leur amour, avec de pauvres gestes, mais des gestes d'amour. Lui offrir un dernier adieu. Oui, que pouvait-elle faire d'autre sinon que d'aller au tombeau pour le faire ? C'était un dimanche, très tôt le matin. Le soleil s'était à peine levé en ce jour de peine. Notre Père, c'est vrai que nous ne sommes que cendre et poussière, mais pour cette poussière que nous sommes, tu as donné ton Fils unique. Nous te louons. C'est vrai que nous sommes aussi éphémères qu'une fleur des champs, mais ta bienveillance dure d'éternité en éternité. Nous te rendons grâce. C'est vrai que tu as créé l'homme à partir de la poussière du sol, mais tu lui as donné ton souffle pour vivre, pour aimer et pour te louer. Nous te bénissons. C'est vrai que nous balbutions dans notre marche vers toi, mais c'est toi qui nous rejoins et qui fais route avec nous. Nous te louons. Rappelle-nous jour après jour que la terre a été créée pour notre salut. Que cette confiance nourrisse notre louange. Amen. Nous lisons maintenant le verset 3.
Elles se disaient l'une à l'autre : qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?
C'est un choc pour ces femmes. C'est comme si on leur disait « Circulez, il n'y a rien à voir, rien à faire. » Pardon. Les femmes, amies de Jésus, ont été fortes et courageuses. Fidèles et présentes jusqu'à ce moment terrible que fut la crucifixion de Jésus. Mais à présent, en route vers le tombeau, leurs pas se font plus lourds. Leur chagrin est immense comme cette pierre devant le tombeau, justement. Et d'ailleurs, Qui va nous rouler la pierre ? Se demande-t-elle. Lorsqu'on a tenu jusqu'au bout, lorsqu'on a été fort dans l'épreuve, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il le fallait bien, arrive un moment où l'on se sent vaciller, où l'on n'en peut plus, un moment où nos forces nous lâchent. Qui leur roulera la pierre à ces femmes qui ont perdu Jésus ? Quand on est éprouvé, on ne voit plus clair. L'horizon se transforme en un mur. Et dans ces moments-là, toute consolation, tout réconfort apparaissent comme une injure faite au chagrin. Et aujourd'hui, qui roulera la peine, la pierre, de tous ceux qui ont perdu un être cher ? Qui roulera la solitude dans les grandes villes ? Qui roulera la peur du lendemain ? Oui, dans le cœur de ces femmes, comme dans le cœur de tant d'humains dans ce monde, il fait nuit, la crainte est là, le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire ni à espérer. Nous avons peut-être, nous aussi, des sujets, des choses, des situations qui sont difficiles et qui sont lourdes à porter. En somme, un désespoir. Alors ce matin, chacune et chacun va recevoir une pierre noire, cette pierre du désespoir. À chacune, à chacun, de penser à une situation, à une personne, à un sentiment de désespoir, de chagrin, de peine. Et puis plus tard, nous déposerons chacune, chacun, notre désespoir au pied de la croix. Prenez ce moment-là, en silence, avec cette pierre dans vos mains pour songer au désespoir que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu ressentir récemment. Vous pouvez garder la pierre en main ou vous pouvez la poser pour le moment. Parce que nous allons continuer notre périple avec les femmes et la lecture suivante, donc les versets 4 à 7.
Levant les yeux, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de ce côté. Entrée dans le tombeau, elles virent là un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et furent effrayées. Il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à Pierre et à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. »
Le jour de Pâques, tout est chamboulé, tout est renversé. En arrivant au tombeau, les femmes découvrent que la pierre a été roulée. Bonne nouvelle, non ? Malgré la tristesse, elles peuvent passer, entrer dans le tombeau et s'occuper du corps de Jésus. Mais stupeur, le tombeau est vide. Stupeur et frayeur. Voilà une bien mauvaise nouvelle. Pour elles, le corps de Jésus, c'était leur certitude. Cette certitude de la mort, de la faim, était d'ailleurs tout ce qui leur restait. Et voilà que même ça, ça leur est enlevé. Le tombeau est vide. Il y a même quelqu'un, un inconnu, pour leur dire « Vous cherchez Jésus de Nazareth ? Il n'est pas ici dans la tombe. » Les femmes sont bouleversées. Il n'y a plus rien à embaumer ou à garder un tombeau vide. Quoi de plus déroutant, décevant, déconcertant? Et nous, aujourd'hui, aurions-nous réagi autrement que ces femmes? Comme c'est dur de tomber sur rien, sur du vide, d'avoir affaire avec un absent. Si au moins nous avions eu un mausolée, une pyramide, une simple pierre, une inscription, même incomplète, une trace, au-delà d'un tombeau déserté. Mais non, rien. Comment comprendre l'histoire de Pâques? Nous voici au même niveau que ces femmes craintives, hésitantes, qui nous ressemblent tellement. Ces femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le récit du dimanche de Pâques commence donc avec une disparition. Jésus n'est plus là, le tombeau est vide. Comment interpréter ce vide? Dans la vie, il y a des vides qui nous font peur. Il y a des vides qui ne nous parlent de rien. Il y a des vides qui donnent le vertige. Y a-t-il des vides heureux? Pour essayer de comprendre, je vais vous lire une histoire que j'ai trouvée récemment, que j'ai un tout petit peu adaptée. Elle se passe dans un groupe de cathés. Dans ce groupe, il y a un enfant de 12 ans, Martin, qui est né avec un retard mental important. Ses parents étaient heureux qu'il puisse venir au groupe de cathés, car au collège, Martin ne trouve pas sa place. L'atmosphère dans le groupe est souvent agitée, rassemblant 7 enfants aux âges contrastés, ce qui n'est pas simple pour Rémi, le moniteur du cathé, pourtant jeune, dynamique. Lorsqu'approche le printemps, les ados, excités à la pensée que la fête de Pâques approche avec son cortège de chocolat, c'est un moment magique entre eux qu'ils vivent. Il n'y a plus ni grand, ni petit, ni fille, ni garçon. Tous égaux en Jésus-Christ face au chocolat. Cette année-là, Rémi leur raconta une fois de plus l'histoire de Jésus, de Jésus-Christ. Il aimait leur dire « La saison qui nous parle le mieux de Jésus, c'est le printemps ». Et pour souligner l'idée de la nouvelle vie que Jésus donne à chacun, Rémi donne à chaque enfant un grand œuf en plastique en leur disant « Rendez-vous dimanche prochain avec cet œuf et vous y mettez quelque chose dedans qui exprime pour vous une nouvelle vie ». Tous les enfants approuvent, tous les jeunes, sauf Martin qui ne dit rien et qui regarde seulement en l'air. Le dimanche suivant, les ados sortent et jouent. Il fait très beau ce matin-là. Et puis, c'est le moment de regarder les œufs que les ados avaient apportés. Ils étaient tous là sur la table de la petite salle dans un joli panier. Rémi prit un premier œuf dans lequel il trouva une fleur. Une fleur, c'est certainement le signe d'une vie nouvelle. Ce sont bien les fleurs qui annoncent le printemps. C'est de toi, Mathilde? Oui. Dans le deuxième œuf, il trouva un morceau de rocher couvert de mousse. C'est une bonne idée. La mousse aussi nous parle de la vie. C'est de moi, dit Paul. Mon grand-père m'a aidé. Allons voir l'œuf suivant. Tiens, il y a un papillon dedans. Ça, c'est un très joli symbole. Symbole d'une vie nouvelle, dit Rémi. Savez-vous que les premiers chrétiens ne mettaient pas des croix sur leur tombe, ce sinistre instrument de supplice, mais un papillon? Le papillon leur parlait de la résurrection. Comme la chenille se transforme en papillon, ainsi se transformera notre corps à la résurrection. C'est tout différent, beaucoup plus joli et pourtant issu du même être. Notre vie terrestre a une forme. Notre vie céleste en aura une, issue de la première, mais différente. Qui a trouvé ça? C'est toi, Léa, bravo. Rémi plonge à nouveau sa main dans le panier et lorsqu'il ouvre l'œuf, il n'y trouve rien. Mince, pense-t-il. Cela doit être l'œuf de Martin, il n'a pas compris de quoi je parlais. J'aurais mieux fait d'appeler ses parents pour expliquer l'exercice afin de ne pas l'embarrasser de cette sorte. Et discrètement, il repose l'œuf dans le panier. Lorsqu'il en prend un autre, une voix claire se fait entendre. « Et moi, mon œuf ?» demande Martin. « Mais Martin, ton œuf est vide ?»« Bah oui, c'est comme la tombe de Jésus. » Après un petit temps de silence, Rémi reconnaît « Tu as raison. Sais-tu pourquoi la tombe de Jésus était vide ?»« Oui, oui, » répondit Martin. « Jésus a été tué et on l'a mis dedans. Après, Dieu l'a ressuscité. La mort a perdu. » C'est la vie qui a gagné. Rémi était confus et ému. Lorsque quelques mois plus tard, Rémi alla à l'enterrement de Martin, il découvrit sur le cercueil, parmi toutes les fleurs, un papillon et beaucoup d'œufs. Tous vides. Il y a des gens pour qui Pâques n'a pas encore fait irruption au sein de leur vie, parce qu'ils sont anéantis par l'épreuve. Ils n'ont pas encore senti pour eux-mêmes que la pierre a été roulée. Alors, en silence, Seigneur, nous te remettons ceux qui ont vécu l'expérience de la résurrection, ceux qui l'espèrent et ceux qui n'attendent plus rien. Amen.